Bonjour, eh bien nous nous retrouvons avec Elisabeth et Raymond donc pour l'émission Les mots de la foi. Et nous avions réfléchi à l'aide du livre de Bernard Sesboué, L'homme merveille de Dieu, sur Jésus-Christ, qui est l'homme sauveur. Et nous avions, dans la dernière émission, rappelé que s'inscrivant dans une terre, la Palestine, dans une vie, la vie d'un prêcheur au bord du lac de Tibériade, avec la vie agricole, la pêche, enfin tout ce qui se faisait dans cette région du monde à ce moment-là, eh bien, cela a du sens pour nous aujourd'hui et que Jésus est sauveur universel. Et il est sauveur universel par la croix et ce que Paul appelle le scandale et la folie de la croix. Alors, il est aussi sauveur universel parce que dans les moments de la croix qui se poursuit par la résurrection, il l'a auparavant inventé, si j'ose dire, l'Eucharistie, pour être auprès de nous tous les jours de notre vie. L'institution de l'Eucharistie. Donc, nous commençons notre émission par cela. C'est relaté par tous les textes des évangélistes et aussi par Paul.
Oui, avec quatre récits de la multiplication des pains, il y a quatre récits de l'institution de l'Eucharistie. Bon, il n'y a pas dans Jean, hein, mais c'est Paul qui complète.
Et le sens est donné par le lavement des pieds chez Jean.
Chez Jean, oui, ça remplace, si on peut dire. Et c'est cette institution qui est relatée en disant, pendant le repas, Jésus prend du pain et du vin et les donne à ses disciples en disant, prenez, mangez et buvez-en tous, car ceci est mon corps et mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude pour le pardon des péchés.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a véritablement les mêmes mots. Donc vraiment, c'est central. C'est central aussi pour nous aujourd'hui. Oui. Et ça a toute chance d'être véridique, bien sûr. Oui. Pas simplement aux yeux de la foi, mais même aux yeux de l'histoire. Qu'un texte soit repris dans les mêmes termes par quatre auteurs différents, c'est quand même extrêmement rare. Ça n'existe pas, d'ailleurs.
Et alors, chez Luc et Paul, il y a le fait que Jésus demande de refaire cela.
Voilà, faire ceci en mémoire de moi. Donc, ce n'est pas simplement l'Église qui invente l'Eucharistie, c'est véritablement l'Eucharistie, elle est liée à la personne même de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi, c'est l'Eucharistie déjà. Donc, on passe là de la Pâque juive, de l'esclavage à la liberté, au passage vers le Père. Alors, c'est vrai qu'à cette époque, ça a scandalisé quand même la foule et que déjà, le Christ en avait parlé auparavant.
Oui, c'était dans le discours à la synagogue de Capharnaüm, mais déjà, ça avait scandalisé tout le monde qui comprenait cela au sens matériel.
Oui, surtout scandalisé et puis surtout était resté incompréhensible. Et c'est aussi dans ces séquences concernant la croix, la résurrection, que l'on passe constamment d'une histoire qui est relatée par tous les textes de l'époque, par les évangélistes bien sûr, par Paul aussi. Et constamment, il y a le passage du récit de ce qui s'est passé, on pourrait dire un espèce de reportage, mais fait 70 ans après, donc c'est pas un reportage, au sens que ça a. Et alors c'est vrai pour tout. Alors déjà, comment on passe du pain et du vin au pain et au vin sacramentel qui sont le don du Christ lui-même, mais aussi pour chaque étape de ce parcours qui mène de la croix à la résurrection.
Ça commence par la prière de l'agonie de Jésus, qu'on va retrouver là aussi dans trois des récits de la Passion.
Et dans Matthieu, Marc et Luc, en effet, oui.
Jésus, nous disent les évangiles, commence à ressentir tristesse et angoisse.
À chaque fois, il y a aussi la présence des disciples, mais des disciples qui ne sont pas à l'unisson avec lui, qui dorment. Et pourtant, on voit là la relation qu'il y a entre le Christ et les hommes. Le Christ demande aux hommes de le soutenir. Alors la question, c'est, et pour nous ?
Oui.
Il y a toujours cette demande humaine pour soutenir le Christ, peut-être soutenir les autres.
Oui. Et dans ce récit aussi, c'est quelque chose qui est rare. Nous connaissons le contenu de la prière de Jésus. La prière à son Père, sa demande pour que le supplice s'éloigne. Et en même temps, sa soumission à la volonté de son Père.
Alors ça, c'est aussi un paradoxe. C'est quelque chose quand même, une pierre d'achoppement. Et là, tout de suite, le Père Cesboué nous met en garde contre une interprétation qui a été celle de notre catéchisme. La volonté du Père n'est pas évidemment de faire mourir Jésus pour venger sa justice.
Non. Cette volonté, c'est de demander à Jésus d'accomplir sa mission jusqu'au bout.
Et jusqu'au bout, là, c'est le salut des hommes, et un Dieu vengeur qui dit, devant la faute, il faut que ce soit Dieu lui-même qui meure, son fils.
Parce
donc.
Que ce jusqu'au bout, c'est la méchanceté des hommes, le mal.
Jusqu'au bout, la méchanceté des hommes, jusqu'au bout, le salut du Christ. Donc.
Oui.
Et là, le texte insiste. Cette prière répétée trois fois est douloureusement corrigée. Travaille Jésus jusque dans son corps, puisque, nous dit Luc, des caillots de son sang tombent à terre et qu'un ange doit venir le réconforter. De l'amour du Père. L'agonie de Jésus peut être considérée comme le sacrement de nos agonies. Je crois que là, c'est peut-être... Il n'y a pas de réponse au mal, mais là, il y a peut-être une piste de réflexion sur ce mal, sur ces souffrances, sur ce mal que l'on ne comprend pas et un pourquoi qui nous laisse sans réponse. Et apparemment, à cette demande d'éloigner de cette agonie, de cette souffrance, Jésus a subi la mort de la croix. Donc, il n'a pas été épargné aussi par cette souffrance.
Et pourtant, l'Épître aux Hébreux dit « C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication avec grands cris et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de sa soumission. »
Alors, c'est ça l'intérêt. Quel est l'exaucement ? L'exaucement, c'est au moment de la résurrection, c'est-à-dire il est différé quand même dans le temps.
Oui, c'est ça.
Donc, Jésus est définitivement exaucé à la manière de Dieu qui accomplit son dessein selon ses vues. Je crois que là aussi, il y a peut-être à nos questionnements, quelquefois, le s'abandonner au mystère et au mystère de notre propre vie. Ce qui nous amène à la réflexion sur le silence, la parole et le silence de Jésus au cours de ces événements. Et comment, aux questions de ceux qui l'interrogent, il répond par le silence.
Oui, il semble qu'il est un peu ailleurs, dit le Père Cesboué. Il domine la situation. C'est lui qui est le sujet, qui transforme par sa simple présence une scène de condamnation, d'exécution. Et les quelques paroles qu'il prononce au cours de sa passion sont significatives, elles ont un sens encore plus grand parce qu'elles sont prononcées sur ce fond de silence très important.
Voilà, alors il y a l'arrestation, et là on a la relation avec Judas. Mon ami, fais ce pourquoi tu es ici. Judas, c'est par un baiser que tu me livres. Donc, voilà, il y a Judas. Il y a la relation à Pierre.
Oui, Jésus interdit immédiatement le combat que Pierre a l'air de vouloir commencer en tirant son épée.
Et chez Jean, eh bien, il y a le fait que le Christ veut laisser aller ceci. C'est-à-dire, c'est lui qui va au-devant de son supplice, mais il fait en sorte que ses disciples soient épargnés. Et puis il passe devant les juges. Et alors là, eh bien, on a, chez les quatre évangélistes, on a les scènes devant les juges.
Oui, alors...
Devant le Sanhédrin d'abord.
Oui, il garde le silence. Et il répond, quand le grand prêtre lui demande chez Matthieu, « Es-tu le Messie ?» Jésus dit, « C'est toi qui le dis, simplement. » Et on retrouve dans ses récits sa grande connaissance de
l'Ancien Testament.
De l'Ancien Testament.
C'est lui, en fait, qui résume l'Ancien et le Nouveau Testament, on peut dire.
Oui.
L'Ancien Testament, et puis il est le Nouveau Testament.
Oui. Alors, chez Marc, à cette même question, il répond « Je le suis ». Et il utilise les mêmes textes. Chez Luc, il ne répond pas nettement. Et on retrouve la même formule que chez Matthieu. Donc, on retrouve là...
Le silence.
Le silence, c'est en quelque sorte la réticence de Jésus à
s'affirmer comme le Messie.
Oui.
Alors, il y a bien sûr aussi... La soldatesque, le dialogue avec Pilate, qui essaie de s'échapper de ce rôle, mais qui finalement, devant la crainte du recours à César, abandonne Jésus à sa situation, donc à la croix et au supplice, auquel il n'échappe pas.
Et c'est chez Pilate qu'on voit bien qu'il y a deux univers qui se croisent. L'univers de Pilate, le tout-puissant, le politique, qui résume tout en termes de pouvoir, et l'univers de Jésus, qui est l'univers de son père, l'univers avec Dieu.
Oui, c'est même
Dieu.
Plus l'univers de la Palestine du premier siècle, c'est véritablement un univers autre, autre
oui.
et ailleurs.
Oui.
Mais il n'empêche que la mise en croix, elle se fait bien sur place, elle est bien là, et... On retrouve encore à la fois le dialogue avec son père. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et entre tes mains, je remets mon esprit.
Alors, effectivement, ce sont ces passages qui posent question. Et ce n'est pas du tout là le bonheur et le salut, puisque c'est la mise en croix et c'est la mort. Et... C'est là que Paul nous dit « Cette horreur de la croix est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Donc le contraire du bonheur et du salut. Et c'est pourtant là que se joue le salut du monde, puisque cela s'achève par la résurrection.
Oui, et ces récits nous donnent l'image de Jésus, qui est une image de paix, de dignité, de sérénité, qui est en contradiction avec l'attitude de tous les adversaires qui l'entourent.
Au point qu'il y a là l'exclamation de foi du centurion, qui au pied de la croix, et c'est lui qui a le mot de la fin, aussi le mot de la fin pour notre émission, puisque le temps s'achève. Vraiment, cet homme était injuste. Injuste. Donc une prise de conscience que cette manière de mourir... ne peut pas mourir, et que c'est là que se joue le salut des hommes. La manière dont Jésus vit sa propre mort devient un récit de salut. Cet homme est plus grand que toutes les turpitudes humaines qui disparaissent en quelque sorte devant lui. La lecture de la Passion ne nous laisse pas indemnes, pour peu que nous ayons essayé d'entrer en vérité dans la trame de ce récit. Et c'est le mot de la fin. Chers auditeurs, je vous dis bonne semaine à tous, au revoir.